Indépendance, tcha-tcha, Tosoumiye. Okipwaza, tcha-tcha, Toubakini.
La Grenouille vous propose des lectures d'extraits de deux livres du célèbre journaliste polonais Kapuscinski. Eben, écrit en 1998, et Il n'y aura pas de paradis, écrit en 1978, initialement publié sous le titre La guerre du foot. Mort en 2007, Kapuscinski a parcouru l'Afrique en tant que reporter pendant la période des indépendances. Le blanc. À Dar es Salaam, j'ai acheté une vieille Land Rover à un Anglais qui rentrait en Europe. On est en 1962. Le Tanganyika a acquis son indépendance il y a quelques mois et beaucoup d'Anglais de l'administration coloniale ont perdu leur poste et même leur maison. Dans leur club déserté, on raconte de plus en plus souvent qu'en arrivant le matin au ministère, ils trouvent leur bureau occupé par un autochtone qui déclare avec un large sourire « Désolé, vraiment désolé ». Cette relève de la garde porte le nom d'africanisation. Certains l'accueillent avec des applaudissements, comme un symbole de libération. D'autres sont choqués par cette évolution. On sait qui est pour et qui est contre. Afin d'encourager ces fonctionnaires à travailler dans les colonies, Londres et Paris offraient aux candidats au départ des conditions de vie mirobolantes. Un modeste employé de poste de Manchester, dès son arrivée au Tanganyika, recevait une villa avec jardin et piscine, des voitures, des boys, des congés en Europe, etc. Les colons vivaient comme des coqs en pâte. Or voilà que du jour au lendemain, les indigènes acquièrent l'indépendance. Ils héritent d'un état colonial intact, ils se gardent bien de le modifier, car il offre aux fonctionnaires des privilèges fantastiques auxquels les nouveaux maîtres ne veulent nullement renoncer. Hier, pauvres et humiliés, ce sont aujourd'hui des élus. Ils occupent un poste important et disposent d'une bourse bien garnie. L'adoption du système insensé des salaires des Européens engendre dans les nouveaux États africains une lutte pour le pouvoir d'une violence et d'une cruauté inouïes. Instantanément, une nouvelle classe gouvernante apparaît. Une bourgeoisie bureaucratique qui ne crée rien, ne produit rien, se contentant de gérer une société et de profiter de ses privilèges. Le mécanisme du XXe siècle, selon lequel tout se fait dans la précipitation et la frénésie, fonctionne également ici. Jadis, l'émergence d'une classe sociale nécessitait des décennies, voire des siècles de gestation. Ici, il a suffi de quelques jours. Les Français qui suivent d'un œil condescendant cette lutte pour une promotion sociale appellent ce phénomène la politique du ventre. Seulement voilà, on est en Afrique et l'heureux nouveau riche ne peut oublier les vieilles traditions du clan. Or, l'un des canons fondamentaux de sa culture ancestrale veut que tout ce que l'on a, on le partage avec ses frères de race, avec les membres du clan. Bref, comme on dit ici, avec son cousin. En Europe, la relation entre cousins est plutôt faible et éloignée. En Afrique, le cousin maternel est plus important que le mari. Aussi, a-t-on deux chemises, il faut en donner une, un plat de riz, la moitié. Celui qui ne respecte pas ce principe est condamné à l'ostracisme, à l'exclusion, à la solitude qui, ici, suscite l'horreur. Autant en Europe, et a fortiori en Amérique, l'individualisme est une valeur appréciée, autant en Afrique, il est synonyme de malheur, de malédiction. La tradition africaine est collectiviste, car seul un groupe solidaire peut faire face aux multiples et constantes adversités de la nature. Or, le groupe ne peut justement survivre que s'il partage en toute petite partie tout ce qu'il possède. Si quelqu'un occupe le poste de ministre d'un blanc et hérite de sa villa, de son jardin, de son salaire et de ses voitures, la nouvelle ne tarde pas à parvenir à l'endroit d'où l'heureux élu est originaire. Comme une traînée de poudre, elle se répand dans les villages environnants. La joie et l'espoir emplissent le cœur de ses cousins. Commence alors leur pèlerinage vers la capitale. Arrivés en ville, ils retrouvent sans problème le parent parvenu. Il se présente au portail de sa maison, le salue, asperge rituellement la terre de djinn afin de remercier les ancêtres de cet heureux tournant du destin. Puis, il s'installe dans la villa, la cour, le jardin. Bientôt, la tranquille résidence où vivait un Anglais d'âge mûr avec son épouse taciturne devient grouillante et bruyante. Devant la maison, dès le matin, un feu brûle. Les femmes écrasent le manioc dans des mortiers en bois. Une foule de gamins folâtrent dans les parterres et les plates-bandes. Le soir, toute la grande famille s'assoit sur la pelouse pour le dîner, car bien qu'une nouvelle vie ait commencé, les habitudes ancestrales demeurent. La tradition de misère immémoriale perdure. On ne mange qu'une fois par jour, le soir. Celui qui occupe un emploi plus mobile et manifeste moins de respect pour la tradition essaie de brouiller les pistes. Un jour, j'ai rencontré à Dodoma un marchand ambulant d'oranges, ce n'est pas un commerce très lucratif, qui, à Dar es Salaam, me livrait les fruits à domicile. Tout content, je lui ai demandé ce qu'il faisait là, à 500 km de la capitale. Il m'a expliqué qu'il avait fui ses cousins. Longtemps, il avait partagé avec eux son gagne-pain. Mais découragé, il avait fini par prendre la poudre d'escampette. « Pendant quelque temps, je vais avoir un peu de sous », m'a-t-il déclaré tout heureux. « Jusqu'au jour où ils me retrouveront. » En fait, les cas de promotion liés à l'indépendance ne sont pas tellement nombreux à cette époque. Dans le quartier des Blancs, les Blancs dominent toujours. Car Dar es Salaam, comme les autres villes de cette partie du continent, est composé de trois quartiers bien distincts, le plus souvent séparés d'eau ou d'une bande de terre déserte. Ainsi, le quartier privilégié, le plus proche de la mer, appartient évidemment aux Blancs. C'est Oyster Bay. Des villas splendides, noyées dans des jardins fleuris, au milieu de pelouses moelleuses et harmonieuses, dallées de gravier. On y mène une vie luxueuse, d'autant qu'on n'a rien à y faire. Tout est pris en charge par des domestiques silencieux, vigilants et discrets. Ici, l'homme se promène, comme il doit vraisemblablement le faire au paradis, d'un pas lent, décontracté, content d'être là, ravi de la beauté du monde. Au-delà du pont, de la lagune, beaucoup plus loin de la mer, sont entassées les maisons de pierre du quartier animé des commerçants. Ces habitants sont des hindous, des pakistanais, des immigrés de Goa, du Bangladesh et du Sri Lanka, que l'on appelle ici les asiatiques. Bien qu'il y ait parmi eux quelques gros riches, la majorité mène une existence moyenne, sans superflu. Ils font du commerce, ils achètent, vendent, servent d'intermédiaires, spéculent. Ils comptent, passent leur temps à calculer, recalculer, secouent la tête, se chamaillent. Des dizaines, des centaines de boutiques, battants ouverts, la marchandise étalée sur le trottoir et jusque dans la rue. Étoffes, meubles, lampes, casseroles, miroirs, toutes sortes d'objets clinquants, des jouets, du riz, des sirops, des épices, de tout. Devant une boutique, un hindou, assis sur une chaise, un pied sur le siège, se cure les orteils avec persévérance. Chaque samedi après-midi, les habitants de ce quartier étouffant et exigu vont à la mer. Ils se mettent sur leur 31. Les femmes revêtent des saris dorés, les hommes des chemises toutes propres. Ils s'y rendent dans des voitures où toute la famille s'entasse à 10, 15, 20. Ils garent les voitures au-dessus de la rive escarpée. À 7h de la journée, les vagues de la marée montante sont puissantes et assourdissantes. Ils ouvrent les fenêtres, respirent le parfum de la mer, ça erre. Au-delà de la masse océanique, s'étend leur pays que parfois ils ne connaissent même pas. L'Inde. Il reste là un quart d'heure, une demi-heure peut-être. Puis, la colonne de voitures bondées s'éloigne et la côte redevient déserte. Plus on s'éloigne de la mer, plus la chaleur, la sécheresse et la poussière deviennent intenses. C'est justement là-bas, sur le sable, sur la terre nue et stérile, que se dressent les cases du quartier africain. Les différentes parties de ce quartier portent le nom des anciens villages d'esclaves du sultan de Zanzibar. Kariako, Al, Magomeni, Kinondoni. Noms aussi variés que les maisons en argile sont uniformes et pauvres, que la vie de ses habitants est misérable et désespérée. Pour les gens de ces faubourgs, la liberté consiste désormais à se promener librement dans les rues principales de cette ville de 100 000 habitants et même à s'aventurer dans le quartier des Blancs. En fait, cela n'a jamais été interdit, car l'Africain avait toujours le droit de s'y trouver. Mais il devait avoir un but clair et précis, se rendre à son travail ou en revenir. L'œil du policier était exercé à distinguer la démarche d'un homme pressé, vaquant à ses occupations, de celle d'un vagabond suspect errant dans les rues. Chacun, en fonction de la couleur de sa peau, avait un rôle déterminé et une place appropriée. Ceux qui ont écrit sur l'apartheid ont souligné que ce système avait été inventé et imposé en Afrique du Sud, dans un État gouverné par des racistes blancs. Aujourd'hui, je suis convaincue que l'apartheid est un phénomène beaucoup plus général et universel. Ses détracteurs prétendaient que le système avait été instauré par des bourses bornées dans le but de régner sans partage et de maintenir les Noirs dans les ghettos appelés là-bas Bantoustan. Ses partisans défendaient leur point de vue en disant « Nous sommes pour que tous les hommes vivent de mieux en mieux et puissent se développer, mais qu'ils se développent séparément, en fonction de la couleur de leur peau et de leur appartenance ethnique. » C'était une idée malhonnête. Car pour qui connaissait la réalité, il était clair que derrière le désir de voir tout le monde se développer dans l'égalité, se cachait une situation fondamentalement injuste. D'un côté, les Blancs possédant les meilleures terres, les meilleures usines et les quartiers riches des villes, de l'autre, les Noirs végétants, entassés sur des lopins misérables et à moitié déserts. L'idée de l'apartheid était perverse, au point que ses principales victimes se sont mises, avec le temps, à y voir des avantages, comme un espoir d'indépendance, le confort de vivre chez soi. En effet, l'Africain pouvait dire « Je ne suis pas le seul, moi, le Noir, à être interdit d'entrer. Toi, le Blanc, si tu veux rester sain et sauf, ne t'aventure pas dans mon quartier. » C'est un extrait de Eben, un recueil de reportages écrit par le journaliste polonais Kapuscinski.